Alors, il se trouve que dans cette période, plusieurs événements vont m'impressionner, m'interpeller en tant qu'enfant, mais même en tant que jeune collégien, et de plusieurs sortes, mais qui vont tous s'orienter dans le même, qui vont tous converger finalement. D'une part, mon grand-père marseillais va mourir en 1933, mais il a beaucoup assisté pour qu'on me fasse faire la communion solennelle catholique. L'autre grand-père, dont j'ai déjà expliqué qu'il était un anticlérical forcené, un bouffeur de curé, dirait-on aujourd'hui, m'a certainement fait un lavage de tête, j'en sais rien, un lavage de cerveau. Toujours est-il que je l'ai peut-être déjà expliqué précédemment, mais je refuse de faire la communion. Et ma mère, qui insiste un peu parce qu'elle aime son père, mais qu'elle est devenue athée au contact de mon père, je lui dis, si vous me forcez à faire la communion à l'église, je cracherai sur le curé. Elle se dit, il est capable de faire un tel blasphème, une telle bêtise, et finalement on abandonne la fameuse communion. Je n'ai donc jamais fait de communion ni solennelle, ni ordinaire, je ne sais pas s'il y a plusieurs catégories catholiques, c'est tout. Mais dans cette période-là, je m'étais aperçu que beaucoup de mes condisciples allaient entre 16h et 17h, le soir après nos cours, aller dans une pièce spéciale où il y avait un curé qui arrivait. Les curés à cette époque-là, on les repérait facilement parce qu'ils avaient des soutanes et des grands chapeaux à large bord, et mes copains allaient donc suivre les cours de catéchisme. Naturellement, j'y suis pas allé, mais je restais au début, tout au moins, en récréation avec d'autres copains. La plupart, alors tous ou presque tous, étaient des enfants de familles juives, qui étaient internes d'ailleurs au lycée, parce que c'était des familles de gens qui habitaient Paris et qui mettaient leurs enfants comme internes au collège de Fontainebleau. Et ces copains, je vais les citer d'ailleurs, parce que je vais les citer avec émotion d'ailleurs, Okonowski, Jakobowicz, je donnerai son nom d'ailleurs à une nouvelle que j'ai écrite beaucoup plus tard, Dreyfus, Ginsburger, mon meilleur copain Ginsburger. Tous ces copains-là, un beau jour, eux, à leur tour, ils commencent à m'abandonner aussi, entre 16h et 17h, et je vois arriver un monsieur de petite taille, de noir habillé aussi, comme le curé, mais pas en gandoura, habillé en costume, et aussi avec un chapeau, mais pas le même chapeau, bien sûr, mais un chapeau noir aussi, et une large barbe. Une barbe noire, il devait être jeune, cet homme-là, et j'apprends rapidement qu'il s'agit du rabbin qui, lui aussi, vient donner un enseignement religieux à mes condisciples, et c'est l'enseignement qui les prépare à la bar mitzvah, c'est-à-dire à la communion, à ce qui correspond à la communion des catholiques chez les juifs, la bar mitzvah. Ce qui fait que je me retrouve un petit peu seul, le seul enfant laïque de toutes ces histoires-là, mais ça va se doubler entre 34 et 36, d'une montée épouvantable de l'antisémitisme chez les enfants d'officiers, les enfants de la noblesse qui sont nos condisciples. Et alors, on attaque mes copains en les traitant de sales youpins, de sales juifs, d'étrangers, de métèques, tout ce qu'on voudra. Il y a même des bagarres. Mon copain Ginsburger, une fois, est encerclé par une bande de nos condisciples, et on le frappe. Et un nommé Néry, les noms me reviennent très bien, le nommé Néry lui assène des coups de poing sur le nez, et mon pauvre Ginsburger, il a le nez en sang, jusqu'à ce qu'un maître d'internat et puis le professeur de gymnastique, M. Oudinot, interviennent et le fassent libérer. Mais je me bagarre, moi aussi, j'essaye de le défendre, mais j'en prends plein la figure, moi aussi. Mais enfin, j'ai pas le nez qui saigne, mais j'en prends aussi plein la figure, parce que c'est des choses que vraiment je raconte à la maison, et ma mère me sensibilise beaucoup. Je suis d'autant plus sensibilisé à ce racisme ignoble que dans cette période-là, je pense que c'est en 33-34, enfin à partir du moment où Hitler a pris le pouvoir en Allemagne, qu'arrive en France un certain nombre de Flüchtlinge, c'est-à-dire de réfugiés, qui sont ceux qui arrivent à Fontainebleau, viennent vivre 8 ou 10 jours à la maison chez mon père, on les héberge, mes parents les hébergent. Ce sont des sociodémocrates, des membres du Parti social-démocrate, et souvent, ils ajoutent à cette qualité politique, cette appartenance politique des sociaux-démocrates, le fait qu'ils sont aussi juifs en même temps. C'est-à-dire qu'ils ont tout ce qu'il faut pour être les victimes de Hitler. Certes, il y avait des réfugiés communistes qui arrivaient et qui étaient pris en charge par le Parti communiste français de l'époque. Alors, j'étais très sensibilisé. Ces hommes, quelquefois, ne parlaient pas du tout français. Mon père, qui avait donc fait l'allemand, parlait quelques... Il baragouinait un peu... l'allemand, vous savez que baragouiné, ça vient du breton, bara et guin, qui veut dire savoir connaître suffisamment une langue pour demander du pain et du vin. Hein? Bara et guin. Baragouiné un petit peu l'allemand. Et un jour, j'ai eu même la surprise de voir arriver un homme très jeune, enfin, je ne sais pas moi, il avait peut-être 19, 20 ans, qui devait être un étudiant en matière artistique, je ne sais pas. Et il avait demandé à visiter le château de Fontainebleau. Ce qui fait que mes parents, j'étais déjà suffisamment grand pour le guider dans le château. Je l'ai fait visiter la cour des adieux de Napoléon, l'étang des Carpes, la partie de François Ier, enfin, toutes ces choses-là, également le jardin des Anglais, et je lui ai fait visiter tout ça, et il me semble qu'il s'appelait Ernst, mais j'en suis pas tout à fait sûr. Et ce jeune garçon, ensuite, naturellement, comme ses compatriotes, était acheminé par le Parti Socialiste sur Londres. Voilà, et ça, alors, donc, ça m'avait extrêmement sensibilisé, à tel point que devant les exactions qui étaient commises par les camelots du roi et les jeunes enfants d'officiers ou de la noblesse, pas tous d'ailleurs, faut pas généraliser d'une manière absolue, mais enfin beaucoup d'entre eux qui flirtaient avec la fleur de lys, ils mettaient des fleurs de lys sur une bague ou bien même à leur boutonnière, avec quelques-uns, nous avons décidé, à l'initiative d'un garçon dont le père va devenir très célèbre, lui-même aussi, qui s'appelait Paul Auriol, nous avons décidé de constituer une section de la LICA. La LICA qui venait de voir le jour, je pars, à moins qu'elle soit née déjà en 31, mais en 36, voilà, c'est vers 35-36 par là, avant que je ne quitte Fontainebleau avec mes parents. On constitue la LICA Fontainebleau avec Paul Auriol, qui est le futur secrétaire général de la présidence de la République, et qui est en fait le fils du futur président de la République d'après 1945, Vincent Auriol. Lui était en première quand je devais être en cinquième ou en quatrième, et il était plus âgé que moi. Et moi, on m'a admis là-dedans parce que j'étais plein d'ardeur, de passion dans ces questions-là, étant sensibilisé par ce que je connaissais à la maison, à travers mes parents, et puis parce que je vivais au collège sur ces questions de racisme. Et alors, là-dedans, tous les copains que nous avions, c'était tous ces enfants juifs dont j'ai parlé, ces enfants, ces collégiens qui avaient, à l'époque, enfin, si moi j'avais 12, 13 ans, eux, ils avaient 15, 16, 17, 18 ans. Et malheureusement, je dois dire que chaque fois que je passe à Fontainebleau, je vais me recueillir un moment devant le monument aux morts de Fontainebleau qui est situé au boulevard de l'Obélisque, là-haut, tout en haut. Et sur ce grand mouvement, je retrouve les noms de mes condisciples, de presque tous mes condisciples. Je crois qu'il y a aussi Lictar, que j'ai oublié de nommer tout à l'heure, mais enfin, Okonowski, Lictar, Jacobowitz, Dreyfus. On avait un surveillant, un répétiteur qui s'appelait Monsieur Veil, qui était quelqu'un de très calé sur le plan de la zoologie et de la botanique, qui travaillait avec le professeur Dufour de l'Institut des sciences, et lui aussi a son nom sur le monument. Ils ont tous disparu dans le Nachtunknebel hitlérien, dans le racisme et l'Holocauste.